Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour Invitation au Bonheur. Et comme chaque lundi, je reçois un invité différent. Et cette semaine, mon invité est... Alors, qui est mon invité cette semaine ?
Je m'appelle Marie-Ève Dama.
Et Marie-Ève, eh bien, moi, je la découvre. Vous la découvrez en même temps que moi. Marie-Ève est une amie d'une amie. Et voilà, elle a souhaité participer à cette émission et j'en suis vraiment ravi. Marie-Ève, dis-moi, si tu devais te définir, mais sans donner forcément dans un premier temps ton métier ou bien ton état civil, si tu devais parler de toi, que dirais-tu de toi ?
Bien d'abord, bonjour. Alors, qui suis-je ? Que dirais-je de moi ? Bien, je pense que la réponse que j'ai envie de donner et qui me vient spontanément, c'est mais on s'en fout en fait. Alors, on a tellement besoin de se définir dans une société très young hein, par ses actions. Et puis, on se définit par ses projets, par ses réussites sociales. Qui je suis, c'est ce que je fais, c'est la position que j'ai dans la société. Et finalement, c'est des définitions qui sont très égotiques, je trouve.
Mm-hmm. Donc,
pour moi, qui je suis, la question, quand je vais bien, elle ne se pose pas. Je suis moi et puis on s'en fout de ce que je fais, de mes qualités, de mes défauts. Ça, c'est du jugement. Et puis, bon, comme c'est des jugements, ça divise aussi les gens, ça m'éloigne d'eux, je vais me définir forcément par rapport aux autres. Et donc les autres vont se définir par rapport à moi et tout ça, ça éloigne. Donc voilà, moi versus les autres, c'est le début de la dualité et c'est le début des malheurs humains. Alors voilà, dans une émission sur le bonheur, je veux dire, qui je suis, on s'en fout.
On s'en fout, on s'en moque et en effet, je suis moi, c'est déjà une réponse bien complète par elle-même déjà. Certains n'arrivent pas à être eux-mêmes.
C'est parfois tout un chemin hein,
de
se définir. En même temps, c'est le chemin de l'incarnation. Quoi. Je suis, c'est déjà bien.
Et est-ce
qui,
que
alors là, c'est le chemin d'une vie. Si la question m'intéresse, de trouver qui.
il paraît que la réponse, elle est peut-être au bout. Donc, en tout cas, on chemine, c'est ça.
Hein. Bon, la réponse, elle est tout le temps là, si on s'y intéresse. On est changeant et on est stable à la fois.
Et est-ce que ton bonheur, c'est d'être toi-même ?
Je pense que ça, c'est se permettre d'être soi, oui. S'accueillir là où on est. Même là où je pourrais ne pas aimer certaines choses ou me trouver un peu réactive sur certaines choses. Pouvoir entendre la voix intérieure de moins qui je suis que où je suis. À quel endroit je suis à ce moment-là ? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça ? Que je réagis comme ça ? Comment je peux m'observer ? Et m'accueillir surtout, hein. M'entendre, me respecter. Et ça, c'est la paix intérieure, quoi. Et juste être là.
T'accueillir dans cet espace ?
Voilà, dans un espace qui est créé à l'intérieur de moi, quand j'arrête de penser. C'est ça, une forme de bonheur, hein. C'est la paix du mental, quoi. C'est...
Mm-hmm. Parce que la pensée, elle nous pollue aussi.
La pensée, elle divise. La pensée, elle sépare, elle fait... Elle fait intervenir l'ego. Si je pense, c'est que forcément, je suis, comme disait Descartes, mais c'est l'inverse, en fait. Plus je veux être, et moins je dois penser. Dans le schéma que moi, j'ai envie de suivre par rapport au sens de la vie, c'est ça. C'est, si je veux être, il faut que j'arrête de penser. Il faut que je m'ancre dans l'instant, là où il n'y a pas de passé, pas de futur, pas de séparation entre moi et les autres, pas d'ego. Je chante, je danse, je masse, je lâche le mental. Et là, je suis dans la paix intérieure. Pour moi, c'est ça, une forme de bonheur. Donc oui, c'est être. Et me permettre d'être aussi, parce qu'on n'est pas toujours là-dedans. Il y a parfois, on est réactif par rapport à des choses.
Mm-hmm.
Je peux réagir quand quelque chose m'ennuie, me met en colère, me rend triste. Et on n'est pas toujours dans l'accueil et dans le bonheur. Et c'est aussi se permettre de ne pas toujours être là-dedans et s'accueillir aussi là.
Dans le contrôle.
Parfois.
Ouais, ni dans le contrôle non plus, c'est ça.
C'est l'inverse, je dirais. Plus on contrôle et moins il y a de la place pour la vie.
Oui, c'est ça. Mmh. Donc à certains moments, voilà, on est trop dans le contrôle et on perd ce lien avec soi-même.
Mmh. Le contrôle, c'est une manière de sécuriser le périmètre. Hein. C'est aussi un truc de l'ego. Hein. Si, j'ai besoin de contrôler l'environnement parce que ça me rassure. Ça rassure mon être. Donc, c'est quelque chose d'égotique, hein, de la relation au monde.
Et pourtant, on a besoin de l'ego aussi. Sinon, il n'existerait pas.
Bah, c'est une des composantes de l'incarnation. Il faut faire avec.
Et oui, c'est ça.
Il faut faire avec, mais faut l'accepter, s'en détacher. Et en même temps, il est toujours là. C'est une composante. C'est nécessaire. Mm-hmm.
Et donc, et cette acceptation, est-ce que c'est aussi une des composantes du bonheur, finalement?
Oui, mais c'est de l'acceptation créatrice. C'est pas de l'acceptation renoncement. Mm-hmm. Hein, le renoncement, c'est quand, je vais, par exemple, je vais dire, bon, on dit le bonheur est dans le lâcher prise. Bon, je renonce, je voulais quelque chose, mais j'y renonce. Mais ça peut être quelque chose que je subis. Et là, je lâche l'éponge, mais quelque part, je suis frustrée, je suis en colère, et je laisse tomber parce que ça ne marche pas, parce que le réel ne correspond pas à mes attentes. Et ça, c'est une forme de renoncement un petit peu de l'ordre de subir la chose, quoi. Alors que si je fais du détachement quelque chose de créateur, me dire qu'est-ce que ça va me permettre, moi ? Quelle liberté je peux avoir par rapport à ce qui se passe ? Est-ce que je ne suis pas libre ? Et là, je réagis, hein, je subis, ou est-ce que, au contraire, je peux en faire quelque chose ? Qu'est-ce que ça peut créer à l'intérieur de moi ? Mm-hmm. Et qu'est-ce que je peux faire avec cet espace-là ?
Et si je le considère comme un choix, aussi ?
Oui, faut attention à l'entourloupe quand même. J'essayais de me persuader que c'est un choix quand c'est un truc que je subis, c'est encore se tromper soi, je crois. Ça ne marche pas très longtemps, hein, parce que la frustration, elle va revenir.
Bouddha disait que accepter, c'est pas se résigner, mais c'est mettre son énergie là où elle peut nous être utile. Donc ça peut être de trouver, même dans une situation subie, quelle va être notre marge de manœuvre. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir ? Et peut-être qu'on peut choisir aussi le regard qu'on pose dessus. C'est déjà un choix.
Oui, bien sûr. C'est marrant parce que je dis ça cette semaine. Ce qui fait vraiment la différence d'une expérience qu'on va considérer comme une réussite ou un échec, parce que réussite, échec, c'est des jugements que je pose sur ce qui arrive. Et que quelque chose est bien ou pas bien, c'était en fonction de mes attentes. Si ça m'arrivait que c'est bien, c'est ce que je voulais. Si ça m'arrivait que c'est pas bien, c'est parce que je voulais pas ça. Donc c'est vraiment en fonction du jugement qu'on a. Et donc l'expérience, elle est neutre en fait. C'est juste que je peux en faire une réussite si je choisis quelque part, et là je te rejoins dans le choix, je choisis de qu'elle me soit utile, qu'elle me fasse évoluer d'une manière ou d'une autre. Et là, alors, je reprends mon pouvoir créateur sur la vie, et dans l'ego, d'accord, mais bon, on me dit, c'est pas un problème. Alors que si je reste dans quelque chose qui est de l'ordre du ressentiment, et que j'ai l'impression de subir, et que cette expérience que juge négativement ne m'apporte rien, et que je ne peux rien en faire, parce que je suis à ce moment-là dans l'impossibilité d'en faire quelque chose, d'y trouver du sens, ou de la mobiliser pour pouvoir évoluer, là, effectivement, je vais la considérer comme un échec, et je pourrais pas sortir de ce jugement. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre du choix.
C'est aussi le choix de se tourner vers soi, donc d'aller en quête de son être, ou bien de se laisser porter par le paraître aussi.
Oui, mais là aussi, il y a quelque chose dans les valeurs de la société, hein, qui sont un petit peu véhiculées. On est fort dans l'avoir, on est fort dans le faire. Hein. Donc là, et l'avoir, le faire, tout ça, c'est le paraître, c'est ce qui va apparaître aux autres, ce que je possède et ce que je fais. C'est comme ça, on a commencé par là. Comment est-ce qu'on se définit en général dans la société ? C'est comme ça. Et pourtant, c'est l'essentiel, c'est sûr que n'est pas là. Et je crois que les gens le sentent, ça, qu'il y a quand même un décalage. Moi, j'ai l'impression
que qu'on le sent. C'était les mots de Denis Marquet. J'avais vu une de ses conférences il y a plus de 10 ans maintenant, où il disait, voilà, c'était... Pour lui, aller vers son vide créateur, c'était apprendre à lâcher le paraître, à lâcher l'avoir, à lâcher le faire. Donc on est vraiment dedans. Mm-hmm. Très intéressant, Denis Marquet. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin de notre première partie, à l'issue de laquelle j'aime bien passer un titre choisi par mon invité. Donc je vais passer ce titre et tu nous en parleras après, Marie-Ève.
Oui.
Ok.
Avec plaisir.
Okay. pas de caresses en fermant les mains. Longue jointe en une prière, bien ouverte pour acclamer. Dans un point les choses à soustraire, on ne peut rien tendre, les doigts pliés.
Alors Marie-Ève, que venons-nous d'écouter exactement ?
Alors on vient d'écouter une chanson qui pour moi symbolise un peu le bonheur. Les mains, la main tendue, la main qui va caresser, masser, ou puis comme dans la chanson, une main qui s'ouvre comme un écrin sur une framboise ou sur un diamant, sur une feuille morte. Ben voilà, une main, c'est, pour moi, c'est le symbole de l'humanité parce que ça peut donner une caresse comme ça peut donner un coup. J'aime bien cette ambivalence du symbole. Parce que finalement, ce serait quoi le bonheur si on était toujours heureux, hein, c'est juste un jugement sur mon état de santé mentale. Mais si je sors du jugement, finalement, bonheur, malheur, c'est comme la main quoi, qui caresse et qui gifle. Ça peut être deux possibilités. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, si je juge pas, il reste quoi ? Si j'enlève les conditionnements, il reste ce qui est juste. Et potentiellement, bah, ça peut être jugé positivement ou négativement. Là, c'est bien de faire conscience.
Il peut rester le regard qu'on porte aussi sur ce qui s'est passé. Mmh. C'est-à-dire que quelquefois, sur le moment, dans l'instant présent, on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir vraiment peut-être apprécier une situation ou être capable de savoir si ce qu'elle nous apporte. C'est souvent le temps qui nous permet de dire finalement cette épreuve-là, mais elle m'a fait grandir. Finalement, ce que j'ai vu comme étant une difficulté, c'est quelque chose qui m'a construit et qui me permet de faire aujourd'hui quelque chose que je n'aurais jamais pensé peut-être faire auparavant.
Oui. Il y a un conte qui s'appelle Aurore et Aimée de Jeanne Leprince Beaumont, si je me souviens, et ça parle exactement de ça. Hein, donc c'est une histoire qui montre bien qu'en fait, de préférence, il faudrait se garder de juger les événements parce qu'on ne sait pas si une chose qui arrive sera bonne ou mauvaise, il faut attendre. Mmh. Et il arrive plein de trucs absolument abominables et on se demande jusqu'où ça va aller avant que la personne qui a un petit peu adopté cette conception de la vie réagisse en disant « mais non, mais là, c'est plus possible, c'est horrible ». Ben en fait, non. Bon, c'est un vieux conte, hein, mais je vous encourage à le lire.
J'avais partagé un conte aussi qui était dans ce sens, voilà, où il arrivait des tas de malheurs à quelqu'un, mais finalement, il s'avérait que c'était ce qui lui permettait ensuite d'avoir plus de bonheur plus tard. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur la main, et en même temps, tu parlais d'humanité, et peut-être pour la première fois, j'ai vu que dans humain, il y avait main.
Oui, là, tu vas faire parler la linguiste en moi. Oui, bien sûr, oui. Pour moi, c'est très symbolique, la main. Et c'est ce qui permet le contact entre les gens. Et là, je vais vraiment pas suivre Sartre. Hein. Je trouve cette phrase épouvantable. Moi, l'enfer, c'est les autres. Non, l'enfer, c'est pas les autres. Le bonheur, c'est les autres. Ou l'enfer, c'est les autres, c'est le tout, puisque les autres, c'est moi. Si je suis en contact avec moi et en accord avec moi, dans le flux de la vie, ce que je suis au milieu des autres me relie aux autres. Et je pense que la question du bonheur, elle est vraiment intimement liée avec celle d'être en lien avec les autres.
Est-ce que c'est pas tout simplement parce que nous sommes des animaux grégaires?
Ouais, grégaire, moi, ça, à mes oreilles, ça sonne un peu péjoratif. Ça fait un peu mouton, hein.
Oui, et pourtant, non, ça veut dire que nous vivons en groupe. Nous avons besoin des autres.
Oui, Grex Grégis, le lapin, le troupeau, hein.
Nous avons besoin des autres pour vivre. On a besoin d'exister dans le regard de l'autre, sinon on ne se sent pas exister soi-même.
Oui, attention à l'ego, là, de nouveau. Hein. Moi, je ne te parle pas ici de me définir moi grâce à l'autre, parce qu'alors je compare, je mets en lumière les différences. Moi, je parle d'être relié vraiment au sens étymologique de la religion, quoi, ce qui relie les gens. C'est une communion d'être. Et donc, si je peux reconnaître toutes mes parts, et pour ça, je pense que c'est un chemin, hein, si je peux reconnaître mes parts d'ombre et donc dans ce que j'ai de plus sombre, eh bien, je peux reconnaître les parts d'ombre de l'autre et donc accepter l'autre comme moi. Et à ce moment-là, on peut vraiment être relié. Et donc, c'est pas se définir par rapport à l'autre. C'est parce que là, on est de nouveau dans quelque chose qui me semble, moi, sonner comme quelque chose de mental. C'est plus devenir l'autre, être l'autre et voir que tout le monde, en fait, que le monde entier est relié. Mmh. Ça, c'est vraiment une question de conscience. Et c'est pas seulement les autres, les personnes, c'est tout. Tout ce qui existe. Ce sentiment profond d'unité ne peut arriver que si on arrête les catégories, si on arrête de penser le monde. C'est vraiment dépasser, c'est au-delà de la pensée.
Ouais, c'est peut-être pour ça que j'avais pris le verbe exister, en fait, tu vois. Ok. Dans cette deuxième partie, avant justement que je partage aussi un petit conte de sagesse, comme je le fais systématiquement, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose?
Ben, je pense que c'est un peu celle du lien entre Dieu et le bonheur.
Donc ça fait très Jacques Chancel, et Dieu dans tout ça.
Disons que je te suis vraiment tout à fait dans le fait de bien séparer, parce que la religion, c'est une spiritualité, mais qui est dogmatique, hein, quand même. Il y a des préceptes qui doivent être suivis et des choses qu'on impose et auxquelles les croyants ne peuvent pas se soustraire s'ils décident d'adhérer à cette religion. Et donc, quelque part, la plupart des religions, hein, contrairement aux spiritualités, elles vont promettre le bonheur dans l'au-delà. On voit ça, bon, nous on est un peu en courant catholique, mais dans d'autres religions aussi, on va considérer qu'ici c'est les souffrances et que le paradis est après et que c'est dans l'incarnation qu'il y a toutes les souffrances. Donc, je dirais pour les religions de ce type-là, bah, il n'y a pas vraiment de lien entre la vie d'ici et le bonheur. Donc, c'est le fait de croire en Dieu et de vivre une vie selon les préceptes qui fait qu'on aura le bonheur, mais beaucoup plus tard. Si on va croire en Dieu, j'aime pas l'expression en fait, parce que croire, pour moi, il y a une adhésion intellectuelle. Et quand je dis je crois en quelque chose, je crois que la Terre est ronde, par exemple, pas parce que je le vois ou que je le sens, mais parce que, ce serait plutôt l'inverse, on aurait plutôt l'impression qu'elle est plate en termes d'horizon, mais parce qu'on l'a démontré. Donc il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'adhésion intellectuelle. Je crois à ça parce que j'en suis persuadée, convaincue, on me l'a démontré, la science, les maths. Hein. Alors que si je dis Dieu, ça ne se démontre pas. La preuve, il y en a qui vont dire où Dieu existe et d'autres pas, donc c'est que ce n'est pas si évident que ça de le prouver. Mais par contre, on peut dire que certaines personnes vont sentir Dieu. On peut dire, voilà, je sens quelque chose que je vais appeler Dieu, une sorte d'énergie d'amour. Et ça, ça peut rendre heureux. Et je crois que sentir Dieu comme énergie d'amour universel, comme source d'amour universel, ça, ça rend heureux. Ouais. Donc c'est un petit peu assez éloigné, je veux dire, de ce qui rendrait heureux selon notre organisation sociale aujourd'hui, quoi. On va dire, ce qui me rend heureux, c'est ce qui me donne du plaisir, quoi. Quelque chose qui est de l'ordre de la satisfaction, de désir, souvent matériel. Bon, c'est un peu bateau, hein, mais c'est un peu
En tout cas, c'est une part du bonheur qui existe, en effet. On parle de bonheur hédonique. Donc, en effet, nous sommes sensibles, en effet, au plaisir et nous aimons satisfaire nos cinq sens. Mais ce n'est qu'une part. On dit aussi que bonheur, voilà, il y a aussi une part d'une façon aussi œdoménique du bonheur, qui est en effet le fait de s'investir dans quelque chose qui est plus long, qui est plus profond, qui nous apporte une satisfaction, voilà, beaucoup plus qui est liée à l'effort, à la réflexion, qui est liée à la patience aussi, et qui n'a pas pour vocation de satisfaire immédiatement des désirs ou des plaisirs. Et c'est aussi cette part de bonheur là qui est intéressante à aller titiller.
En même temps, on n'est pas forcé d'opposer les deux.
Elles ne sont pas opposées.
On peut bien trouver quelque chose de tout à fait spirituel dans les plaisirs terrestres.
Elles sont complémentaires, bien sûr, bien sûr. Eh bien, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Les séquences passent très vite.
Bah oui.
On aurait probablement encore beaucoup de choses à se dire. Ce sera peut-être l'occasion d'une nouvelle émission, pourquoi pas. Moi, j'avais envie de partager maintenant un petit conte. C'est un conte de Thich Nhat Hanh, moine bouddhiste. Un moine décide de méditer seul, loin de son monastère. Il prend une barque et se rend au milieu du lac, ferme les yeux et se met à méditer. Après quelques heures de silence imperturbable, il sent soudain le coup d'un autre bateau frapper le sien. Les yeux toujours fermés, il sent sa colère monter et quand il ouvre les yeux, il est prêt à crier sur le batelier qui a osé troubler sa méditation. Mais quand il ouvrit les yeux, il vit que c'était un bateau vide, non amarré, flottant au milieu du lac. À ce moment, le moine atteint la réalisation et comprend que la colère est en lui. Elle a simplement besoin de frapper un objet externe pour être provoquée. Après cela, chaque fois qu'il rencontre quelqu'un qui l'irrite ou provoque sa colère, il se souvient « L'autre personne n'est qu'un bateau vide, la colère est en moi. » C'était Jean-Marie Marcos avec Marie-Ève Damar pour Invitation au bonheur. Je vais maintenant partager un titre de sa propre playlist de bonheur. Une fois de plus, c'est mon invité qui choisit aussi le dernier titre, parce que j'aurais pu le choisir. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h pour la dernière émission de l'année sur Radio Axe. Et d'ici là, on va le dire ensemble, soyez heureux. Ouais. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. But now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. Did you think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will.
pieces of my broken heart. And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold.